Europe 1, il est 19h, à suivre la Coupe du Monde de football. Mais d'abord le journal, Hélène Zellani, bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Le droit à l'avortement inscrit dans la Constitution, les députés ont largement voté cette proposition de la France insoumise. Reste à voir ce que fera le Sénat. Sur l'abolition de la corrida, Aymeric Caron retire sa proposition. Les détails dès le début de ce journal. Y a-t-il eu financement illégal de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron? En tout cas, le parquet national financier va enquêter sur le rôle des cabinets de conseil comme McKinsey lors des campagnes de 2017 et 2022. Dans ce journal, le viol d'une patiente aux urgences de l'hôpital Cochin à Paris. Le suspect était sous le coup de plusieurs OQTF sous des noms différents. Le Goncourt des lycéens décerné au roman Beyrouth-sur-Seine de Sabil Goussoub. Et puis le mondial, Bame Feto. Bravo Cristiano Ronaldo, premier joueur à marquer lors de 5 coupes du monde différentes. Le Portugal qui vient de battre le Ghana 3-2. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Hélène.
La tendance météo ce soir?
Voilà, avec les pluies arrivées aujourd'hui par le nord-ouest qui vont traverser le pays ce soir et cette nuit pour gagner l'est du pays demain, en épargnant quand même les régions méditerranéennes. Et puis on a d'autres pluies qui sont arrivées par le Pays Basque et qui finiront leur course en Corse. Vos prévisions pour demain, c'est à la fin du journal.
Europe 1. Je viens me rendre à l'évidence, nous ne pourrons pas abolir la corrida en France aujourd'hui.
C'était donc la question très polémique du jour, l'interdiction de la corrida. Le député LFI vient donc de retirer son texte. Aymeric Caron retire son texte, Alexandre Chauveau.
Oui, Aymeric Caron dénonce l'obstruction des oppositions. Il faut dire que sa proposition de loi contenait plus de 800 amendements, ce qui aurait, selon lui, empêché l'Assemblée de voter la loi avant minuit. Or, dans une niche parlementaire qui permet à un groupe de fixer l'ordre du jour à l'Assemblée, le temps est limité. Alors les autres groupes, quelles que soient leurs convictions, ont reproché à Aymeric Caron de fuir le débat. Notons qu'a priori, en cas de vote, l'interdiction de la corrida aurait été rejetée par l'Assemblée. Aymeric Caron a indiqué de son côté qu'il déposerait une nouvelle proposition de loi en ce sens, transpartisane cette fois. La corrida sera bientôt abolie dans ce pays, je le promets, a conclu le député de Paris.
Et dans cette niche réservée aux insoumis, Alexandre, il y avait aussi l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, proposition de loi adoptée.
Oui, 337 voix pour, 32 contre, après 5 heures d'échange et une victoire politique à ce stade pour la France insoumise. La NUP, la majorité et le RN ont voté pour. Une partie des Républicains a déposé quelques amendements dits d'obstruction, mais le texte a finalement été voté sans difficulté. Mathilde Panot, députée LFI et rapporteure du texte.
Aujourd'hui, collègues, l'Assemblée nationale parle au monde. Aujourd'hui, collègues, notre pays parle au monde. La France, en introduisant le droit à l'avortement dans la Constitution, serait la nation pionnière en matière des droits des femmes.
Mathilde Panot qui parle au conditionnel car le texte doit encore obtenir une majorité au Sénat puis être soumis à référendum, ce qui a peu de chances d'aboutir. La Chambre haute ayant rejeté un texte similaire le mois dernier, de nombreux élus exhortent ainsi le gouvernement à présenter son propre projet de loi, ce qui permettrait d'éviter le référendum, mais nécessiterait pour être adopté d'obtenir la majorité des 3/5 du Congrès, Sénat et Assemblée réunis donc.
Alexandre Chauveau, on va rester dans la politique. Le PNF, le parquet national financier, s'intéresse au rôle des cabinets de conseil comme McKinsey. On apprend en effet que 2 informations judiciaires ont été ouvertes fin octobre sur des soupçons de favoritisme et sur les liens avec les campagnes électorales de 2017 et 2022. William Molinier, c'est donc Emmanuel Macron qui est visé.
Oui, parce qu'en toile de fond, ces 2 enquêtes cherchent à éclaircir les liens entre le chef de l'État, son entourage et le cabinet américain McKinsey. Ce cabinet de conseil qui a décroché certains contrats publics aux montants colossaux. Tout cela fait suite à un rapport d'une commission d'enquête du Sénat. Les parlementaires avaient révélé que les contrats conclus entre l'État et les entreprises de consultants avaient plus que doublé entre 2018 et 2021 pour atteindre un montant record d'1 milliard d'euros l'année dernière. 3 juges d'instruction ont été désignés, dont Serge Tournaire. C'est ce magistrat expérimenté qui a mis en examen François Fillon en 2017 dans l'enquête sur les emplois fictifs de son épouse. Les juges vont se poser 3 questions. 1. L'entreprise américaine a-t-elle financé illégalement les campagnes du parti présidentiel? 2. Est-ce qu'elle a été favorisée pour obtenir des contrats publics? Et 3. Est-ce que le pouvoir en place en a tiré profit? McKinsey avait déjà été épinglé par le Sénat pour s'être affranchi du paiement de l'impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020, alors même que le cabinet de conseil réalisait en France un chiffre d'affaires annuel de plusieurs centaines de millions d'euros.
Et William, première réaction de l'Élysée ce soir, la justice doit enquêter en toute indépendance. Un viol dans un service d'urgence d'un hôpital, en l'occurrence Cochin, ça paraît incroyable et pourtant c'est bien ce qui s'est passé le mois dernier. Une patiente de 34 ans vient de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Son agresseur présumé est en détention provisoire. On va revenir avec vous sur cette soirée du 28 octobre, David Montagnier.
Oui, bien cette jeune femme est victime d'un malaise et d'une chute à la sortie d'un bar parisien. Mais avant l'arrivée des pompiers, un homme rôde autour d'elle. D'après les témoins, quelques minutes après, c'est lui qui simule un coma éthylique au même endroit. Les pompiers reviennent donc et le conduisent aussi à l'hôpital Cochin. Sur place, l'individu la cherche, fait le tour des box. Il parvient à la trouver, il la viole. La jeune femme de 34 ans est très choquée, selon son avocat, maître Alexandre Lobry.
Ma cliente, elle est traumatisée des faits criminels qui se sont passés au sein de l'hôpital. Aujourd'hui, son sentiment, c'est comprendre ce qui s'est passé, puisque généralement, à un hôpital, on devrait se sentir en sécurité. On y va pour être soigné, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Si les faits sont avérés, c'est extrêmement préoccupant et très grave.
Alors l'individu a été mis en examen pour viol et on en sait un peu plus sur lui. C'est un homme de 22 ans, sans papier, se dit d'origine jordanienne. Il serait arrivé en France illégalement en 2019 et depuis, il est sous le coup de 3 ordonnances de quitter le territoire sous 3 identités différentes puisque l'individu a utilisé en tout 13 faux noms. On apprend qu'il a également été arrêté plusieurs fois pour vol et usage de drogue. Il est également suspecté de viol sur mineur en Seine-et-Marne en 2020, mais l'affaire a finalement été classée sans suite.
David Montagnier, puis un gynécologue parisien renommé, est mis en examen pour violence volontaire envers 32 femmes. Il s'agit du professeur Émile Daraille, qui dirigeait le centre endométriose de l'hôpital Tenon à Paris. Ses patientes l'accusent de viol et de violence pendant des actes médicaux. Notez aussi que les syndicats de biologistes annoncent une nouvelle grève reconductible à partir du 1er décembre. Ils n'ont pas réussi à trouver d'accord financier avec l'assurance maladie. On va maintenant parler démographie dans les années à venir. Selon la dernière étude de l'INSEE, la population devrait continuer à augmenter dans les régions de l'Ouest et du Sud, mais décliner dans le Nord et l'Est. Plus généralement, Nina Droff, ce que montre cette étude, c'est un ralentissement de la croissance démographique française.
Oui, en effet, même si la population française devrait continuer de grimper jusqu'en 2044 pour atteindre 69 millions de personnes, elle devrait ensuite décliner pour tomber à 60 millions d'habitants en 2070. Un déclin qui s'explique notamment par la baisse de la fécondité en France, mais pas seulement, explique Arthur Cazobiel, expert à l'INSEE.
Et c'est surtout l'arrivée au grand âge de la population au baby-boom, ce qui va mécaniquement générer un solde naturel négatif, c'est-à-dire plus de décès que de naissances dans les prochaines années.
Et vous l'avez dit, toutes les régions ne seront pas affectées de la même manière. La population de l'Occitanie, des Pays de la Loire, de la Bretagne devrait continuer à augmenter, mais de moins en moins vite. Alors qu'un tiers des régions va perdre des habitants d'ici 2070, parmi elles la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire ou encore les Hauts-de-France, des disparités qui sont causées par des écarts d'attractivité migratoire.
On a typiquement des régions du nord et de l'est de la France qui ont des déficits migratoires relativement importants et inversement, des contributions très positives du solde migratoire dans les régions de l'ouest.
Seule la France d'outre-mer, qui garde un taux de fécondité élevé, continuerait à avoir une croissance exponentielle de sa population dans les prochaines décennies.
Nina Droff, 3 coups de corne de brume ont retenti au large de Dunkerque et 3 couronnes de fleurs blanches ont été jetées à la mer. Hommage rendu par des secouristes et des élus aux 27 migrants morts noyés il y a un an en essayant de rejoindre l'Angleterre. Autre triste anniversaire, la guerre en Ukraine a commencé il y a tout juste 9 mois. Ce soir, 70% des habitants de la capitale Kiev sont toujours privés d'électricité alors que les températures avoisinent zéro. Les frappes russes ont en effet visé les infrastructures énergétiques. Stratégie qui s'apparente à un crime de guerre selon les alliés de Kiev. Il est 19h09 sur Europe 1. Une petite pause et dans un instant, un important prix littéraire décerné à Rennes, le Goncourt des lycéens. Il récompense un écrivain franco-libanais.
Europe 1, la suite du journal. Hélène Zélani.
C'est le petit frère du Goncourt, mais il est presque aussi prestigieux. Le Goncourt des lycéens récompense cette année le journaliste franco-libanais Sabil Goussoub pour son roman Beyrouth sur Seine, publié chez Stock. Prix annoncé à Rennes en présence de Charles Guyard.
12h45, salon d'honneur de l'hôtel de ville de Rennes, proclamation du 35e lauréat du prix littéraire.
Sabil Goussoub pour son roman Beyrouth sur Seine.
Et comme le veut la tradition, Sabil Goussoub était en direct par téléphone avec la salle.
Bonjour.
Bonjour.
Et l'auteur aux racines familiales libanaises n'a pu retenir son émotion.
Merci, merci. pense beaucoup aux vivants. Le mauvais lycéen que j'étais voudrait remercier les merveilleux lycéens que vous êtes.
Des lycéens qui ont ensuite expliqué leur choix.
C'est un livre qui est magnifiquement écrit. Il y a une sorte de crise identitaire dans ce livre qui fait qu'on s'est toujours posé des questions sur nos origines, sur notre famille avant, et il met vraiment en avant ça.
Parce que c'est une vraie question de recherche de soi avec l'immigration du coup, et la guerre, puisqu'ils sont réfugiés à Paris.
Ça fait écho à l'actualité.
Oui, aussi. Ça nous a touchés aussi, on a pris en compte.
Il y a de la poésie, il y a des chansons.
C'est un livre chaleureux. On peut s'identifier à l'auteur, au lien qu'il a avec sa famille.
Et l'auteur de 34 ans, Sabil Goussoub, donc, vient de connaître la consécration pour son troisième roman.
Charles Guyard, à Rennes, pour Europe 1. Après la littérature, place au foot. Quelle belle entrée dans le mondial pour Ronaldo. On lui doit le premier but du Portugal contre le Ghana et il devient ainsi le premier joueur à marquer lors de 5 Coupes du Monde différentes. Score final 3-2 pour le Portugal. Un peu plus tôt, la Suisse s'était imposée face au Cameroun 1-0 et l'Uruguay avait fait match nul 0 partout face à la Corée du Sud. Et nos Bleus dans tout ça, ils affrontent le Danemark après-demain. Les 24 joueurs de Didier Deschamps se sont entraînés sous vos yeux, Cyril Delamorinerie.
Oui, bien sûr, les joueurs sont arrivés sur la pelouse souriant et preuve que nous sommes à Doha, eh bien, ils ont échangé les premiers ballons avec une ambiance typique hein, dans un pays du Golfe avec le chant du muezzin qui a résonné. Alors les Bleus ont continuer leur échauffement, des petits jeux avec ballon sous le regard de Didier Deschamps et de son adjoint Guy Stéphan. Guy Stéphan soutenu en tribune par son fils Julien, entraîneur de Strasbourg. Un entraînement à la carte avant de jouer aux cartes. Et oui, pour passer le temps, et bien après le dîner, les Bleus se retrouvent tous les soirs pour des parties de Uno. Nous a confié Matteo Guendouzi en conférence de presse.
C'est vrai que les journées peuvent être un peu longues de temps en temps, mais voilà, il y a un super groupe, on s'entend tous très bien ensemble. Voilà, on joue beaucoup aux cartes, notamment au Uno. Voilà, il y a pas mal de jeux, un peu la PlayStation, des séries Netflix, mais voilà, surtout le jeu de cartes après le dîner le soir, c'est notre activité favorite.
En attendant, lors de cet entraînement, Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann ont vite rejoint les vestiaires. Raphaël Varane était bien présent. En revanche, Kingsley Coman a quitté donc cette séance à cause d'une gêne musculaire. Les remplaçants ont effectué des centres devant le but avec de belles frappes. Des Bleus qui affichent leur confiance avant d'affronter samedi l'adversaire le plus redoutable du groupe, le Danemark.
Cyril Delamorinerie en direct de Doha. Grâce à vous, on a appris un scoop. Les Bleus jouent au Uno. Et on va vous retrouver tout à l'heure dans Europe 1 Sport, puisqu'on suivra à 20h, bien sûr, l'entrée en lice du Brésil face à la Serbie. Et comme tous les soirs, on suit aussi les marchés financiers avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Paris passe le seuil des 6700 points.
Oui, on est au plus haut depuis le mois d'avril. CAC 40, dopé par la perspective d'un ralentissement du rythme des hausses de taux aux États-Unis. Il gagne donc 0,4% ce soir à 6607 points. Avec des volumes quand même très faibles, Wall Street est fermé aujourd'hui pour Thanksgiving et ça a freiné les prises d'initiative. C'est du vert ce soir à Francfort, plus 0,8%. Londres gagne 0,1%, plus 0,3% pour Amsterdam. Et à Paris, le CAC 40 gagne donc 0,4%. 6607 points.
Merci Claire Lemaître. La météo avec vous Marlène Duret. Demain, ce sera plus humide qu'aujourd'hui sur la façade est.
Et oui, parce qu'on a une perturbation donc, qui a gagné aujourd'hui la Bretagne et la Normandie, mais qui va se décaler en direction de l'est et elle va même se scinder en deux. Et donc demain matin, bon, on va retrouver une partie sur une zone allant de l'est de la Lorraine et l'Alsace jusqu'au Savoie. Pluie faible, hein, sous un ciel bien encombré, un petit peu de neige en moyenne montagne sur le Jura et les Alpes. Et puis l'autre partie de la perturbation, on va la retrouver plutôt sous forme d'averses en Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées, averses plus marquées sur la côte basque, des petites averses orageuses également en Corse, et puis sur le reste du pays, bon, plutôt une alternance de nuages et de soleil, beaucoup de soleil, du Roussillon à la Provence. En journée, c'est simple, des éclaircies vont percer ou s'élargir hein, par rapport au matin, mais une ligne d'averses circulera toujours sur un axe sud-ouest, massif central, nord-est. Notez que l'alerte orange vague submersion sur les côtes du Morbihan et du Finistère vient d'être levée, donc on repasse en jaune. Et du côté des températures, c'est globalement stationnaire, des maximales affichant 11 à 14 degrés en général, un petit peu plus sur la côte atlantique, jusqu'à 15 degrés, et même encore un petit peu plus près de la Grande Bleue avec 16 à 19. 19, ce sera pour Toulon.
Merci Marlène Duret, on vous retrouve à 23h. Dans un instant, rendez-vous avec l'équipe d'Europe 1 Sport. Très bonne soirée à tous.